Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et bien sûr de la galaxie. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette 25e journée de notre belle Ligue 1 Uberite pour l'instant, parce qu'apparemment le nom devrait changer vu qu'il y aurait un nouveau partenariat avec McDonald's. Donc on voit que la Ligue travaille toujours aussi fort pour faire la promotion de notre bon championnat. C'est bien, on est content. Dans tous les cas, pour parler aujourd'hui de nos deux matchs prime, donc deux gros matchs. D'un côté, on aura Lens versus Brest et de l'autre côté, on a Lille qui affrontera Rennes, le stade rennais. Le crooner, toujours avec nous, Alexis. Alexis, comment tu vas ?
Salut les sticks, bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien écoute, ça va, merci beaucoup d'introduction. Tu sais, je crois que je vais m'acheter une tente et l'installer dans les studios de Stadium Ligue 1, vu que tu es là toutes les semaines, mais je suis sûr que tu seras content de me voir tous les matins à me réveiller avec mon café.
Mais tellement.
De ce qui s'est passé la veille au foot.
Mais tellement. Tu sais, ta petite voix douce là qui vient me réveiller le matin et tout ça, que du bonheur quoi.
Je sais que pareil.
Et enfin, pour nous accompagner, l'homme qui serait né en plein milieu du Parc des Princes, selon la légende, Baptiste. Baptiste, comment tu vas ?
Salut Des, salut Alexis. Bah écoute, ça va très bien. Ouais, la légende dit vrai, mais tu le dis pas trop fort. Hein. Écoute, non, ça va bien. Ouais, je suis assez content d'être là. Les deux matchs sur lesquels on va longuement en parler me hype beaucoup. Là, je trouve que c'est le sprint un peu final pour les places européennes est un peu lancé. Donc là, ça va être intéressant d'en débattre avec vous deux.
Exactement. On va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite par notre premier match, donc Lens versus Brest. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au match année, Brest avait battu Lens 3-2. Alors c'était fin août et c'était le moment où Lens n'était pas très en forme, où Lens faisait un championnat qui était assez timide. De l'autre côté, Brest avait très bien commencé son championnat. Aujourd'hui, Brest est toujours dans le top du championnat puisqu'ils sont actuellement deuxième du championnat, tandis que Lens a fait une remontée assez extraordinaire. Même s'ils ont eu un petit coup d'arrêt pendant un moment, mais ils sont bien repris la semaine dernière quand ils ont gagné contre Lyon. Donc Lens qui est actuellement 6e avec 39 points et Brest qui est 2e avec 46 points. On va commencer par le club qui reçoit Lens. On sait que Lens a eu une période de moins bien ces derniers temps, surtout depuis cette défaite en Europe, alors qu'ils menaient 2-0 contre Fribourg. Derrière, ils ont eu un peu de mal quand même, on peut le dire, à enchaîner, parce qu'ils ont notamment perdu contre Monaco. Et ils avaient aussi fait match nul contre Reims. Bon, ils gagnent contre Lyon 3-0 sans conteste la semaine dernière. On va commencer par toi, Baptiste, puisque ça fait un petit moment. Est-ce que Lens a remis la machine en marche ? Est-ce que Lens est prêt à enchaîner son long marathon où ils vont affronter des très grosses équipes de notre championnat ?
Moi on a parlé de temps en temps de Lens, je crois que j'ai parlé deux ou trois fois suite aux interventions mais Lens c'était une équipe qui depuis le début de saison j'étais pas hyper convaincu, alors j'étais pas non plus dans une déception absolue, mais j'étais pas hyper convaincu par leur début de saison et surtout par leur style de jeu. Les résultats étaient là, toujours trouvé que c'était excellemment coaché par Francaise. Mais là, je vais te dire, les deux derniers matchs, et même pour être plus précis, la deuxième mi-temps contre Monaco, plus le match que j'ai vu contre Lyon, je retrouve quand même des vraies vertus, que ce soit des valeurs, mais pas forcément que ça, même dans le jeu, des choses super intéressantes de Lens. Dans le jeu, j'ai trouvé sincèrement que le dernier match était leur meilleur depuis le début de saison, 3-0 sans bavure. Certes, Lyon a des occasions, mais ils sont à domicile, mais c'est très bien géré, match très bien géré, techniquement, tactiquement, même dans le caractère de Lens. Donc, ouais, moi je vois un Lens à retrouver par rapport aux saisons précédentes et je les vois finir assez fort la fin de saison.
Ok. Alexis, je vais te lancer là-dessus. Est-ce que toi, tu partages aussi cette vision hein, d'un Lens qui a remis la marche en avant, qui est beaucoup mieux malgré les petites déceptions qu'ils ont rencontrées. Donc, juste pour le rappeler, c'est vrai que Lens, c'est quand même une équipe qui marche très bien à domicile. Aujourd'hui, ils ont quand même 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites à domicile. Donc voilà, je te lance un peu sur cette question pour rebondir. Tu partages toi aussi le même avis par rapport à Lens?
Alors, si tu me lances sur Lens, oui, je pense que
Tu sors.
désolé. Non, je pense que ouais, justement, comme disait si bien Baptiste, les quelques derniers matchs où ils font des bonnes mi-temps ou des bons matchs complets, et même je vais parler rapidement de Fribourg aussi, puisque même la première mi-temps contre Fribourg était très bien menée. C'est juste malheureusement en fin de match où ils ont craqué, on le sait tous, on l'a vu. Mais ouais, ils commencent à redonner un bon visage de leur équipe, de ce qu'ils savent faire, de forcer les autres équipes à s'adapter en fait à leur style de jeu, comme on a vu l'année dernière et qui leur a si bien réussi. Et là, justement, ils reviennent enfin à la 6e place, donc qualificative pour la Ligue Conférence. Ça, plus le fait qu'ils ne jouent maintenant plus que la Ligue 1, ils vont être ultra motivés pour finir sur les chapeaux de roue, pardon. Ils sont plus qu'à 3 points techniquement de la Ligue des Champions, donc de remettre ça l'année prochaine. Donc je pense voilà, la motivation est derrière et puis ils ont les voilà les matchs à gagner en phase 2, enfin dans le futur proche, et ils ont les armes pour bien finir, je pense.
Ok. Moi, je vous avoue, je vous trouve très confiant. Alors, c'est vrai que Lens est bien meilleur en ce moment qu'au début de saison. Hein, je pense que c'est sans conteste. Mais c'est vrai que quand on regarde surtout les matchs de Lens, j'ai l'impression que c'est aussi une équipe qui est beaucoup à réaction. Bon, déjà, Lens n'a battu aucune des 5 équipes qui sont devant elle. Alors bref, c'est sûr, c'était un autre contexte, hein. Mais ils avaient perdu contre Nice 2-0, ils ont fait match nul contre Lille, ils ont perdu contre Monaco aller-retour, ils ont perdu contre le PSG aller-retour, ils avaient perdu contre Brest 3-2. Donc certes, ils battent les équipes qui sont derrière elles, hein, comme Marseille, Rennes, etc. Mais les équipes qui sont devant elles, ils ont beaucoup de mal à les battre. Et je trouve que moi, Lens, c'est quand même une équipe qui est beaucoup à réaction. C'est quand même une équipe qui a mis 55% de ses buts en deuxième mi-temps. Et on est autour de 50-60% aussi. C'est une équipe qui a tendance à encaisser le premier but à domicile. Enfin, mis à part Lyon, hein, on l'a vu contre Monaco aussi. Ils font une mauvaise première mi-temps, mais ils se réveillent bien en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est pas non plus quelque chose, enfin une zone d'inquiétude, se dire que ce Lens, c'est quand même un petit diesel, et s'ils se font piéger en première mi-temps, de pas être capable de revenir, Baptiste?
Non mais il y a des points d'interrogation, ça c'est une certitude, et par rapport aux 2 dernières saisons, mais ces 2 dernières saisons elles sont exceptionnelles, t'es supporter lensois, tu dois kiffer, et là c'est pas un retour à la normale, et encore on parle d'un retour à la normale, son 5e 6e, enfin voilà, ils sont là dans les places européennes, c'est vrai qu'ils dictent un tout petit peu moins le jeu à domicile, et surtout le tempo où l'année dernière on avait l'impression que quand même c'est eux qui dictaient le jeu, même contre le PSG, même contre les plus grosses équipes, ils dictaient le jeu. Ça, je suis assez d'accord. Moi, je trouve quand même que la défaite à Fribourg, elle devait faire mal. Et sincèrement, les revoir 2 semaines après ou 3 semaines après faire ce match à Lyon, moi, je trouve ça quand même fort. Ça montre que dans le club, malgré les résultats, ils restent sereins. Et une autre chose qui me rend un peu plus optimiste, c'est qu'on voit de plus en plus Wai dans cette équipe-là, qui avait énormément de mal à se trouver. Alors je sais pas si c'est maintenant la triplette qui forme que ce soit avec Pereira Costa qui quand même se révèle énormément et Sotoka, ou je trouve que quand même Pereira da Costa il ramène une notion un peu technique dans leur milieu de terrain dans les 30 35 derniers mètres, qui fait que Wai, sans que ça soit directement, sans que Pereira Costa cherche absolument Wai, tout ça, mais une finesse un peu technique qui, je trouve, leur manquait, moi, depuis le début de saison. Est-ce que c'est ça qui fait que qu'on voit un peu plus Wai? Parce que nous ne méprenons pas le talent de cette équipe-là, c'est cet attaquant-là qui est certes parfois un peu qui est pas tout le temps constant, pas tout le temps régulier, mais si ils veulent intégrer le top 4, voire qui est maintenant qualificatif pour la Champions League l'année prochaine. Suivant le coefficient UEFA, mais je pense qu'on est on est bien parti là. Ça va être avec un très bon Wai, un Pereira da Costa qui est sur ces lignées là, sur ses prestations dans ce moment et sur un bon Sotoka. Donc ouais, moi je suis plutôt confiant.
Ok.
Je peux juste ajouter une petite chose
Vas-y.
par rapport à
Tu comptais parler, tu allais parler des attaquants?
Non, non, de Lens et des statistiques dont tu parlais tout à l'heure.
Vas-y.
C'était juste, voilà, tu disais 60%, etc., etc. Mais en soi, c'est exactement à l'image de la saison de Lens. Ils commencent mal et après, ils finissent sur les chapeaux de roue. Et puis, comme en première ou en deuxième mi-temps, sur les 7 défaites en tout qu'ils ont cette année en Ligue 1, il y en a 4 dans le premier mois. Et depuis, ils en ont perdu que 3, donc Nice, Monaco et PSG, qui sont quand même des gros clients aussi. Donc je pense, voilà, quand il faut faire le taf, ils le font
Ouais, c'est
ces
vrai
derniers temps.
qu'ils ont une très belle période, mine de rien, avant ces défaites contre Monaco et Fribourg, où ils étaient invaincus, tout simplement. Mais je vais rebondir sur ce que Baptiste a dit, puisque je comptais en parler, justement, cette paire d'attaquants. Sotoka, Wai, Da Costa, juste pour vous donner un petit chiffre, sur les 12 derniers buts mis par Lens, on en a quand même donc 8 qui ont été mis par soit Sotoka, soit Wai, soit Da Costa. Donc Sotoka c'est 2, Wai 3 et Da Costa 3, et les trois réunis ils comptent 3 passes décisives au total, hein, que en championnat. Du coup, bah Alexis, est-ce que finalement la clé de cette équipe lensoise, est-ce que c'est ce trio?
Je pense que ça peut, oui, ça peut être une des clés parce que on sait que défensivement ils étaient assez stables depuis, voilà, depuis 2 ans. Et justement cette année, ce qui marchait pas, ce qui fonctionnait pas, c'est qu'ils avaient perdu leur attaquant ou leur animation offensive en général. Et c'est justement d'avoir retrouvé ce trio ou d'avoir pu voilà, mettre de l'huile dans les rouages ces derniers temps qui a permis à Lens de continuer sur sa lancée qu'ils avaient commencé en novembre, octobre-novembre, à enchaîner les victoires. Et oui, je pense c'est très intéressant parce qu'en début de saison, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on parlait beaucoup de Lens sur le fait que le jeu était morne, il y avait rien, c'était juste un contre-attaque assez placé et très prévisible. Mais maintenant, j'ai l'impression que voilà, grâce à ce trio, il y a beaucoup plus d'animation, ça passe sur les ailes, ça passe au centre, ça passe partout en fait, et ils sont partout. Et justement, comme disait Baptiste, Wai, on le voit beaucoup plus, on le voit toucher des balles, on le voit porter le ballon vers l'avant, alors qu'en début de saison c'était juste en reprise, en pivot. Et donc voilà, ça fait plaisir à voir, je trouve.
Ok. Du coup, moi, ça me permet aussi d'enchaîner, puisque vu qu'on parlait des attaquants, bah, ça me permet d'enchaîner aussi sur Brest, parce que Brest, mine de rien, alors, elle a fait moins d'éclat qu'une équipe comme Nice, où on a beaucoup vanté la défense niçoise, mais Brest, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Donc, quand Nice a encaissé 17 buts, Brest n'a encaissé que 18 buts cette saison. Donc ils font même mieux que le PSG qui a encaissé 19 buts. Est-ce que finalement, c'est pas ça la force de cette équipe brestoise, pour enchaîner sur eux, c'est cette solidité, pardon, défensive. Alors, ils ont pas des joueurs extraordinaires. Enfin voilà, c'est pas des joueurs dont on parle tout le temps, puisque ils ont une défense qui n'a quasiment pas bougé. Il y a que Loco qui est arrivé cette année. Dans la défense brestoise, mais sinon Chardonnay, Brassier, ils étaient déjà là l'année dernière. Kenny Lala aussi était déjà là, si je me trompe pas. Alors bien sûr, il y a un Pierre Lesmélou, pardon, devant, qui fait le taf avec un Magnetti. Cette défense, voilà, cette défense brestoise, on en parle peu, mais est-ce que voilà, justement, c'est pas la force, pardon, de cette équipe? Est-ce que ce trio va pouvoir justement faire sauter le verrou de cette défense, Baptiste?
Je comprends, t'as vachement axé sur la défense de Brest. C'est vrai que les chiffres sont bons. Moi, c'est vrai que je la globalise plus en équipe, et surtout, moi, je vois la force de cette équipe plus au milieu, sincèrement, avec un milieu archi rodé. Ouais, tu parlais de Lesmelou qui fait un peu chef d'orchestre et qui fait une saison absolument extraordinaire, hein, sincèrement. Moi qui suis pas un fan, hein, de base en plus de ce joueur là, donc là je le vois, il est absolument, non, il est vraiment très bon, un peu replacé en espèce de sentinelle et tout, et il me fait une super impression. En plus, il suit les attaques très souvent. Là on voit, c'est lui qui marque les deux derniers buts, je crois, en plus à domicile, que ce soit à Marseille ou ou Havre, donc il est capable en plus de finir. Il maîtrise le tempo de son équipe. Après, il est quand même bien aidé par Magnetti et Camara, qui aussi me bluffent un peu, parce que je trouvais que c'était des joueurs très très agressifs, très très généreux, mais qui manquaient un peu de technique. Et là, sincèrement, moi, elle me surprend beaucoup, cette équipe. Je la trouve très mature, très bien rodée, très cohérente, assez, très complémentaire. Je suis pas sûr. En plus, là, on parle de la défense, ils subissent pas tant que ça chaque fois que je vois les matchs. Là, on se base un peu plus sur la défense, parce qu'après en attaque, il manque un tout petit peu, je trouve, un peu de talent, mais peut-être que ça, on va y revenir. Donc non, c'est une équipe très très mature, très intéressante. On les avait un peu caricaturés en début de saison, et là, on va être pratiquement mi-mars, et ça continue. Donc je suis franchement vachement agréablement surpris par cette équipe, hein.
Et surtout, ouais, c'est l'équipe chaque week-end qu'on dit elle va craquer, elle va tomber. Juste pour te, alors il avait bien marqué contre Le Havre, Pierre Lesmélou, et Strasbourg, c'est un triplé de Camara. Ouais,
Ah, mais
et
à
il
domicile,
marque,
il marque à Marseille. À
il
Marseille,
marque à
c'est ça, il
Marseille,
marque. Contre ça, dernière
exactement,
minute. Ok, ouais, j'avais
exactement.
zappé, excuse-moi, j'ai oublié, j'ai zappé Strasbourg.
Ouais, bah ouais, en plus triplé de Madi Camara, hein, ça arrive pas tous les jours, ce genre de choses. Mais ouais, et toi, tu montes pas dans le wagon Pierre Lesmélou en équipe de France?
Non, on va peut-être pas aller jusque-là, mais sincèrement, après, peut-être après, bah, vu la qualité au milieu de l'équipe de France, non, je pense pas, sincèrement. Après, là, il y a vraiment un gap de qualité, mais ça n'engage rien sa saison qui est monstrueuse, hein, faut être honnête. Moi, je le voyais pas du tout à ce niveau-là. Je suis assez choqué, sincèrement. Et alors, à voir si c'est une saison, et de toute façon, ça sera tout à son mérite. Il faut la faire, cette saison-là, où il va pouvoir garder ce niveau pendant dans le temps, quoi. Donc à voir. Mais non, peut-être pas l'équipe de France quand même. N'abusons pas.
Ok. Alexis, toi, est-ce que voilà, je te pose la même question. Est-ce que toi, tu trouves que le point fort de cette équipe brestoise, c'est justement cette défense dont on n'a pas forcément parlé, hein, je vais pas revenir sur les stats, mais au final, qui fait un travail assez extraordinaire, même un gardien comme Bizot, qu'on parle assez peu, et au final, bah, qui encaisse très peu de buts.
Ouais, carrément. En fait, c'est pas seulement la défense, un peu comme ce que Baptiste disait justement, c'est toute l'équipe qui est soudée, tout le monde défend, et après seulement une partie de l'équipe attaque, soit en contre ou quoi que ce soit. Mais oui, c'est le fait que tout le monde est soudé derrière, ils veulent pas se prendre de but. Peut-être qu'ils ont été choqués ou traumatisés l'année dernière, où ils s'étaient pris quand même beaucoup de buts, et qui s'étaient pas qualifiés, mais maintenus seulement peut-être 2 journées avant la fin. Et Bizot aussi, oui, super gardien, enfin très très bon. Et même, j'en parlais il y a quelques temps, où je sais plus si c'était à 3 4 semaines, où il était suspendu et blessé. Je m'étais dit, ah, enfin c'est la fin de Brest, parce qu'ils ont pas de ils ont pas de remplaçant, ils ont juste enfin juste ils ont Grégoire Coudert, qui avait pas beaucoup de matchs en pro jusque-là. à part la coupe, je crois. Mais même lui, il a fait des gros matchs contre Marseille, contre Strasbourg, contre le PSG aussi. Bon, il s'était pris quelques buts, mais il avait fait quelques arrêts vraiment pas mal aussi. Donc ouais, je pense que c'est toute l'équipe, ils se sont trouvés une raison de se battre tous l'un pour l'autre. Et c'est super beau à voir
Ok.
cette équipe soudée.
Et du coup, bah toi, t'en parlais de l'attaque Baptiste, on va revenir dessus, puisque au final, leur attaque, elle est pas folle quand même. Enfin, c'est le genre d'équipe qui a plusieurs buteurs. On en parlait en début de saison comme une équipe. On parlait souvent de Reims comme une équipe, voilà, qui a une variété de buteurs, mais on voit qu'au final, ça cale. Brest, ça fonctionne mieux. Parce que bon, ils sont quand même deuxième du championnat, mais c'est pas non plus la meilleure attaque du championnat. Aujourd'hui, Brest, en termes de buts, ils sont à 35 buts, 35 buts mis, hein. Donc, si on prend les 5 premiers, bon, ils sont devant. Ouais, finalement, ils sont quand même devant Lille et Nice. Bon, Nice, c'est pas étonnant, mais quand même devant Lille, hein, ça me surprend aussi un peu. Mais ouais, ils ont une variété de buteurs. Donc, t'as Del Castillo qui a 5 buts, Madi Camara qui a 5 buts, mais qui a mis un triplé, Camori Doumbia qui a 5 buts. Est-ce qu'ils peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison comme ça, avec cette attaque et très peu de buteurs, enfin, pas un top buteur en tout cas?
Non, mais là où t'as raison, c'est que c'est là où un peu le bât blesse. Mais sincèrement, c'est aussi le fait qu'on trouve qu'une c'est une équipe super généreuse, c'est qu'elle travaille énormément, énormément sans ballon. Elle manque un peu de talent. Enfin, je parle pour être classé dans les 4-5 premiers. Elle manque un petit peu de talent offensif, que ça soit. Et pourtant, il y a des joueurs que j'aime beaucoup, Pereira Lage, Satriano, même Mounier, qui est, je crois, un des joueurs qui gagne le plus de duels offensifs, je crois, en Europe, hein, on parle d'un mec comme ça, même le Douaron qui est là, qui a beaucoup plus de mal, alors qu'en début de saison, il était quand même très très intéressant. Donc c'est une équipe qui manque un petit peu de talent, plus le fait qu'il travaille énormément sans ballon. J'ai vu cette équipe, donc c'était pas le 2-2 au Parc, mais c'était le 3-1 qui perdent en Coupe de France. Et sincèrement, c'est une équipe qui m'a vachement impressionné qui est capable de jouer bloc haut, qui est capable de jouer un peu plus bas, qui est, en plus, ils ont été un moment à 10 avec le tac de Brassier. Ils ont, pendant 10 minutes, on n'a pas senti une énorme différence. Toujours un peu de mal à se créer des occasions, ça c'est vrai. Mais qui garde un bloc hyper cohérent et tout ça. Non, c'est une équipe qui va pas se créer énormément d'occasions. Mais sur les 3-4 situations, elle les jouera à fond, et elle les jouera à fond, et après on sait jamais. Et avec son bloc défensif dont tu parlais, et ben ça suffit. Tu regardes bien, ils prennent pas beaucoup de buts, ils en marquent pas énormément, mais assez pour être second du championnat, quoi. Donc non, équipe très intéressante, hein.
Ouais, c'est comme tu disais, l'un de leurs points forts que vous citiez, c'était parce que j'étais tombé sur une stat sur les duels gagnés par match, et ils gagnent la moitié de leurs duels. Donc c'est quand même une très belle stat, hein. Tu dis qu'un duel sur deux est quand même gagné, ça montre quand même l'envie de cette équipe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette équipe brestoise, Alexis, avant qu'on passe au prono du week-end?
Je pense que ouais, tout a été très bien dit. Une seule petite chose, c'est Jonas Martin qui me, c'est pas qui me déçoit, mais j'attendais beaucoup de lui parce que je l'aimais beaucoup quand il était à Lille, à Strasbourg. Je le trouvais très très serein et très fort au milieu. Et justement, dans tout ce qu'on disait sur voilà, le milieu qui gère cette équipe de Brest, je trouve que Jonas Martin a un petit peu moins mis sa patte dans l'équipe. Déjà, il joue beaucoup moins que les autres parce qu'il a été blessé longtemps, mais voilà, ouais, c'est tout ce que je voulais ajouter. En plus, c'est un ancien de Lille, donc il doit connaître la maison, et ça doit pouvoir les aider, je pense, à trouver les secrets derrière la défense lilloise, peut-être.
Ok. Ok. Bon bah juste pour vous rappeler avant qu'on parle voilà de score et de compo, au niveau du RC Lens, au niveau des absents, on aurait peut-être Wai qui serait absent. En tout cas, il est incertain selon une douleur à l'épaule, donc à voir. Mais bon, il y a quand même de fortes chances qu'il soit présent. Medina qui est suspendu pour l'accumulation des cartons jaunes et le retour, enfin en tout cas Machado pour l'instant qui est en reprise et à rien de sûr qu'il soit présent. Puis après les absents habituels et du côté brestois, on aura l'absence de Julien Cardinal et surtout le retour de Steve Mounier qui avait pris un carton rouge. On va commencer par toi, Baptiste. Est-ce que quel type de compo tu vois pour les équipes, si tu as des idées, enfin en tout cas si tu vois quelque chose qui sortirait du commun et surtout quel type de score tu vois pour ce match?
Ouais, pour là, c'était parti sur Lens. Non, la classique. Là, donc là, non, j'avais pas l'info. Merci de me l'avoir dit que Medina sera suspendu. Donc ça, là, je trouve que c'est un petit coup dur quand même parce que dès qu'ils ont dû le remplacer, j'ai pas trouvé top Aïdara ni le. J'ai peur de décorcher son nom. Donc le, je crois que c'est pas bulgare, mais je me rappelle plus sa nationalité.
Kuzanev,
Le défenseur. Exactement, exactement. Je me rappelle plus. Je veux pas dire de bêtises. Je suis pas hyper fan des. Je suis pas hyper fan des backups de Lens. Je trouve qu'ils ont pas donné entière satisfaction, alors que j'adore leur défense titulaire. Donc c'est un petit coup dur. Ceci dit, je vois pas le match se jouer là. Je vois un deux milieux qui se rentrent un peu dedans et un match assez serré, un match avec une énorme intensité et globalement, l'équipe de Brest aussi, je l'ai pas faite de ce team, mais bon, je pense que ça sera la classique qu'on voit les derniers matchs. Après, à savoir en attaque si ça se joue entre Pereira, Lage, Del Castillo. Pereira, Del Castillo, Mounier, Satriano. Bon, après, je suis pas sûr que ça se joue énormément sur une individualité côté brestois. Et non, je vois un petit avantage pour Lens du fait de la triplette offensive qu'on a dit, qui, je trouve, a franchement fait de très bonnes impressions, de très bonnes impressions à Lyon. Et ouais, un petit peu plus de talent côté Lensois dans les 30 derniers mètres. Donc j'aurais une courte victoire lensoise, un petit 2-1, j'espère, en ayant des buts. J'ai peur qu'il n'y en ait pas énormément, mais je veux être optimiste. Donc un petit 2-1, ouais, un petit 2-1. Et après, oui, si Wai ne joue pas non plus, bon, ça va commencer à faire deux absences assez importantes, quoi.
Ok. Toi, Alexis, même question. Est-ce que tu vois des compos qui sortiraient du lot des deux côtés? Et sinon, ton score pour le match?
Après, justement, ces deux équipes qui changent pas beaucoup leur 11 de départ, à part blessures, suspensions, etc. Donc, je vois pareil les deux équipes classiques. Pour le score, moi, je partirais plutôt sur un match nul, mais avec des buts. Je vois pas un 0-0, donc peut-être un 1-1. Le 2-2, je le verrais pas non plus parce que voilà, Brest prend pas de but. Donc voilà, le 1-1, je pense que ça me paraît bien.
Ok. Ok,
Ouais, juste une petite
ouais.
dernière chose. Juste
Ouais.
une petite dernière chose. Brest, il y a un petit côté qui faudra faire attention parce qu'on a tracé un peu les longes de cette équipe-là. Des fois, ils sont très très agressifs. Alors, est-ce que ça serait bien de contrôler tout ça parce que je crois que Mounier a pris un rouge à Marseille. Madi Camara, il est souvent un petit peu à la limite. Comme je crois que Brassier, bon bah on se rappelle de la faute sur Mbappé. Alors c'est une équipe hyper agressive et c'est assez plaisant à ça. Des fois, il y a la ligne rouge. Et dans ce genre de match-là, je pense que maintenant c'est des matchs qui comptent assez cher contre un concurrent direct. Faudra faire attention à pas commettre ce genre d'erreur parce que Lens, tu joues à 10 à Lens, ça peut être compliqué, quoi.
Ouais, c'est pas jouer à 10 à Marseille comme on l'a vu où finalement ils s'en étaient bien sortis. C'était un Marseille qui était un peu en crise, mais c'est vrai que à Lens ça peut être compliqué. Mais c'est vrai que moi s'ils sont voilà si pareil hein, les compos ça va pas bouger. Hein, on voit il y a certains joueurs, je crois qu'ils ont tous les matchs de la saison pour l'instant en Ligue 1 comme les Charbonniers ou les Lesmelou. Donc voilà, rien de choquant dans dans les compos. Et en score, c'est vrai que c'est difficile. Je verrais difficilement Lens perdre chez eux, surtout à ce moment-là de la saison. Mais je partirais quand même sur un match nul. Ouais, match nul 1-1. Parce que je vois pas non plus. Puis on va être surpris. Et finalement, c'est Brest qui va gagner. Mais bon, ouais, non, match nul, Lens-Brest. Ok, nickel. On va passer au match suivant, hein, si on n'a plus rien à dire sur celui-là. Donc Lille face à Rennes. Donc Lille face à Rennes, pareil. Hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Les équipes s'étaient séparées sur un 2-2. Donc à Rennes. Donc à cette époque-là, Rennes n'était pas forcément en méga forme. C'est marrant parce que ça se Il y a une sorte de parallèle avec le match de Lens où Rennes n'était pas forcément en méga forme en début de saison, hein, pas catastrophique, mais pas en méga forme. Et quelques temps après, Pep Genesio quittait le club. Lille, je trouve que c'est quand même pour moi, en tout cas pour l'instant, une équipe qui est certes forte, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'instabilité dans cette équipe, hein. Donc, on va commencer tout de suite, hein, Lille qui va enchaîner un gros marathon dans les prochaines journées. Donc là, ils affrontent Rennes, ensuite ils vont affronter Brest, ensuite Lens, ensuite Marseille et ensuite Monaco. Ils ont l'Europe au moment où on enregistre. Ils sont justement en train de jouer contre le Sturm Graz. Et surtout, on voit que bah, Lille, ils ont beaucoup de mal face aux gros, hein, parce que quand on regarde un peu ce qu'ils ont fait face aux différentes équipes, hein, qui sont allées, on va dire, dans le top 5, top 6, a du mal à gagner contre les gros. Ils ont battu Brest et Monaco, pardon, au match aller. Sinon, après, le reste, c'est que des matchs nuls. Et je trouve que ce Lille, bah, même s'il propose du beau jeu, mais je trouve qu'il manque de consistance quand même. Et à la limite, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ils sont quatrième, plus parce que les autres équipes ne sont pas assez fortes, que plutôt que, plutôt le contraire, que Lille impose son rythme. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Baptiste, de ça? De mon idée, du fait que ce soit plus les autres qui soient pas assez forts que Lille qui soit constant.
Ouais, je te rejoins. Je l'ai jamais trop caché. C'est une équipe que j'aime bien, un coach que j'aime bien. Après, ouais, il y a un certain manque de régularité. Il y a aussi deux visages qu'on voit à domicile, à l'extérieur. Énormément de mal à jouer à l'extérieur à chaque fois. Et à domicile, c'est quand même, après, c'est à domicile, c'est très très fort. Donc non non non, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis un petit peu déçu là ces derniers mois. Pas forcément sur les résultats, parce que voilà, je viens de le dire, mais plus dans le contenu, où je trouve pas ça fou, sincèrement. On voit des joueurs qui ont un peu plus de mal à faire la différence individuellement. Je pense à Ounas, je pense à Zegrova surtout. Zegrova. À l'inverse, on retrouve un Jonathan David assez décisif. Donc non non non, il y a à boire à manger dans cette équipe-là. C'est une équipe compliquée à déchiffrer, hein, sincèrement.
Ouais, mais c'est complètement ça, et on rebondit là-dessus, toi Alexis, et qu'est-ce que justement t'en penses de cette équipe lilloise? Est-ce que t'as la même à peu près grille de lecture que nous dans le fait de son instabilité?
Oui, tout à fait. Mais après, je dirais pas que c'est de l'instabilité pure et dure. C'est juste, ils ont beaucoup de talent. Presque tous leurs joueurs sont de bons prospects du foot mondial, ou voilà, des étoiles montantes, etc. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'ils ont tous moins de 24 ans. Ils ont presque aucun, enfin personne n'a de vraie expérience de la Ligue 1, d'enchaîner les matchs, etc. Après, bien sûr, il y a Umtiti qui est un peu blessé depuis le début de
Ouais,
la
quand il
saison.
joue,
Voilà,
ouais.
exactement.
Ils ont Benjamin André quand même.
Oui, après, il y en a un par ligne qui est expérimenté, mais le reste de l'équipe est très très jeune quand même. Donc, voilà, c'est pas vraiment de l'instabilité, c'est la manque de concentration, je pense, où parfois ils peuvent même se sentir un peu plus supérieurs ou un peu plus forts que leur adversaire, et ça leur bah, ça leur fait défaut quand ils sont devant le but, ou alors quand ils commencent à ne plus défendre. C'est ce que j'avais vu beaucoup en phase de groupe de la Ligue, en Europe justement, où il y avait plein de matchs qui devaient être faciles, mais qui perdaient ou qui faisaient match nul parce que voilà, ils n'étaient pas concentrés. Donc voilà, je pense que c'est pas vraiment de l'instabilité, c'est surtout de la jeunesse, on va dire.
Ok, ça va, je te trouve très gentil avec cette équipe lilloise. Donc tant mieux, hein. En vrai, si tu penses à cette équipe, donc tant mieux. Mais c'est vrai que l'un des points qui est important et que tu notais, Baptiste, c'est que Lille à domicile, c'est très très solide. Lille à domicile, c'est une défaite et c'est 4 buts pris. Je sais pas si on s'en rend compte à quel point c'est impressionnant. D'avoir que une seule défaite et que 4 buts pris à domicile, enfin, ça marque quand même cette solidité défensive et surtout bah l'apport d'un joueur comme Yoro, parce que en défense ils ont des joueurs pas plus, enfin ils ont quand même des jeunes joueurs comme un Benjamin André au milieu, mais en défense ils ont quand même des jeunes joueurs comme Yoro. Voilà, c'est un petit bébé, mais un grand prospect qui a joué quasiment tous les matchs de la saison. Umtiti qui a très peu joué parce que blessé, donc il n'a pas pu apporter grand-chose. Sur le côté gauche, on a du Goodmanson. Et voilà, Yoro est souvent associé avec Alexandro, qui n'est pas aussi un gage de qualité. Hein. On lui a vu faire pas mal de boulettes, hein, notamment contre le PSG, où il offre un but. Est-ce que, du coup, c'est aussi... Bah, un peu comme on pouvait dire avec d'autres équipes, est-ce que finalement le point fort de cette équipe lilloise, c'est pas sa déf ce serait pas plus sa défense que son attaque, Baptiste?
Ouais, à domicile notamment, t'as raison qu'ils défendent bien, ils défendent souvent haut, haut et bien, assez agressif et tout ça. C'est pour ça que moi je vois quand même deux visages. Je trouve qu'ils défendent vraiment pas très bien, justement à l'extérieur où ils font beaucoup d'erreurs. Dès qu'il faut défendre un peu plus bas, un peu plus proche de son but, bah c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Tu l'as dit, Yoro Alexandro, bon, moi je trouve que bon, il n'est pas vraiment aidé, le jeune Leny Yoro, pour sa première saison, d'être à côté d'Alexandro qui fait pas mal d'erreurs. Certes, des fois il peut être intéressant, mais quand même, il est sujet à pas mal d'erreurs. Donc non, je sais pas si c'est vraiment leur force. Je trouve que globalement, ouais, c'est une équipe qui défend bien. Elle espère de temps en temps à garder la balle, à pas être hyper concret. Et je trouve qu'à domicile, ils ont absolument pas ce problème où ils essayent toujours d'attaquer et toujours d'attaquer de comment de créer la supériorité sur le côté, que ce soit avec Zegrova, que ce soit avec Kounas. Un peu moins Cabella qui joue un peu moins cette année, mais non, c'est une équipe, ouais, qui a un peu plus de mal. C'est peut-être ça, les équipes un peu moins matures, qui est un peu plus forte à domicile qu'à l'extérieur, enfin même beaucoup plus forte. Donc ouais, on l'a dit, équipe dure à déchiffrer. On sait pas sur quelle île on va tomber de temps en temps, mais globalement il reste très très solide à domicile.
Ok. Alexis, juste pour finir sur Lille, pour toi, quelle va être la clé de cette équipe lilloise justement pour faire un résultat face à Rennes? Est-ce que tu penses que pour toi, ça va plus se baser sur un système, sur un joueur en particulier? Qu'est-ce que pour toi, d'où viendrait la lumière, on va dire?
Moi, je pense que c'est le réalisme, la précision, le travail, en fait, l'enchaînement des passes réussies, des frappes réussies, des tacles, des contrôles, enfin, toutes ces petites choses qui, justement, à chaque fois qu'ils jouent contre des grosses équipes, Lille joue bien, mais il y a toujours des déchets, il y a toujours des moments où ils n'arrivent plus à suivre. Et je pense que c'est ça qui va changer la donne contre Rennes. Parce que Rennes, on en parlera sûrement juste après, mais eux, ils sont assez sérieux quand même. C'est un sérieux client. Donc
Bah
voilà, le
justement,
réalisme, ouais.
on va enchaîner sur Rennes. Alors Rennes qui a perdu la semaine dernière face à Lorient à domicile 1-2, donc un match qui n'a pas été volé. Rennes a produit une très belle prestation. Rennes malheureusement n'a pas pu concrétiser ses actions. C'est pas, on va dire, montré assez dangereux pour pouvoir remporter ce match. Mais moi, je voulais parler de Rennes avant ce match face à Lorient, puisque la dernière défaite de Rennes avant Lorient, c'était face à Monaco, le 9 décembre. Ils ont enchaîné 8 matchs sans défaite, dont 7 victoires et un nul. Et si on prend les 8 derniers matchs de Ligue 1, Rennes est premier. Est-ce que cette défaite à Lorient, parce que c'est pas un match qui a été volé par Lorient, hein, Lorient a eu, ont fait une belle prestation, Est-ce que cette défaite face à Lorient n'est pas un signe que Rennes, au final, est en surchauffe et qu'il fallait un peu relever le capot pour que ça respire parce que là, ils étaient à fond, ils étaient au max. T'en penses quoi, Baptiste?
Non mais tu vois, toi tu bon, t'as mis un petit peu sous le tapis la défaite à Lorient. Moi je la mets pas du tout sous le tapis, sincèrement, parce que Rennes, tu l'as dit, hein, une dynamique assez incroyable, des individualités retrouvées. Je pense Mandanda dans les buts, Gouiri, Bourigeaud beaucoup plus fort que la première partie. Même on parle de Tarié aussi. On a retrouvé des individualités. Par contre, sincèrement, au niveau du projet de jeu, du style de jeu, j'y me retrouve toujours pas du tout. Je sais pas réellement ce qu'ils essayent de faire. Je suis pas non plus surpris. Je suis pas non plus surpris que de temps en temps il y ait des petits couacs. Ils ont certes pas mal de talent. Moi, je pense que dans les effectifs de Ligue 1, on est sur du top 3, top 5 en Ligue 1. Des joueurs assez forts individuellement, mais pour l'instant je vois pas énormément la patte Stéphan dans le style de jeu. Il a fait des bonnes choses aussi à côté, hein, je veux surtout pas annuler ça, mais je suis un petit peu déçu, en tout cas personnellement, du style de jeu de Rennes, en tout cas quand je les vois jouer, sincèrement.
Alexis, toi tu partages cet avis aussi. Est-ce que voilà, c'est juste une petite erreur de parcours, on va dire Lorient, ça arrive, ou juste bah ce Rennes était en méga surchauffe, ils avaient un certain élan avec ce nouveau coach, et là c'est un petit retour à la réalité sur la dernière ligne droite?
Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais la semaine dernière, justement, où Lorient, c'est le chat noir de Rennes, justement, il gagne presque tout le temps. Je pense, voilà, c'est pas une erreur de casting ou une erreur de la part de Rennes, c'est juste, voilà, c'est comme ça, ils ne savent pas gagner contre Lorient, quoi qu'il arrive. Comme Rennes fait toujours des gros résultats contre le PSG, d'ailleurs. Mais c'est aussi, voilà, Stéphan, il est arrivé en cours de route et il sortait d'une ouais, d'une prestation, enfin d'une de 2 ans, je pense, ouais, assez mitigé à Strasbourg. Donc là, il revenait à Rennes pour essayer de retrouver les belles années qu'il avait eues il y a quelques années, mais je pense qu'il n'a pas encore réussi à réinstaurer justement son système, un peu comme ce que Baptiste disait tout à l'heure. Voilà, donc on est toujours en attente justement de le voir imposer son jeu, retrouver sa patte en fait, ou son petit quelque chose qui peut enchaîner des matchs, sans, voilà, sans erreur de oui sans défaite impromptue, pardon, j'en perds mes mots.
Bah, je vous trouve dur un peu quand même sur Stéphane, parce que moi je trouve qu'il y a certains joueurs qu'il a réussi un peu à remettre en confiance, comme
Non, mais
Ludovic
totalement
Blas
de
par
style.
exemple.
Non, mais
Blas.
totalement de style. T'as raison. Hein. Moi, je veux surtout pas qu'on passe pour un peu le pisse-froid
Ouais.
ou pour l'anti-Renault ou quoi que ce soit. Je dis pas, il a fait des très bonnes choses depuis qu'il est arrivé. On parlait des individualités retrouvées. Hein. Il a sa part de responsabilité. À un moment, les joueurs, les remettre en confiance, c'est aussi le travail du staff technique. Et il en a entièrement responsable, le joueur aussi, je dis pas, mais non, je suis assez d'accord. Il y a pas que du mauvais à dire de Stéphane. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'après, sur une continuité, il va falloir quand même retrouver une base de jeu. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient même du mal en Coupe de France, contre, je sais plus, je crois que c'était une quatrième division. Je me rappelle plus de l'équipe, je suis désolé. Je crois Puy-en-Velay, je crois, hein, Puy-en-Velay,
Puy-en-Velay, ouais, ou un truc comme ça. Deuxième
exactement.
3. Ouais.
Donc, voilà, non, mais ayant vu le match, ils ont quand même à galérer, sincèrement, ils ont quand même galéré. Et non, je trouve que cette équipe, on peut être un petit peu exigeant parce qu'il y a vraiment pas mal de talent, il y a matière, il y a des très bons joueurs. Et donc voilà, je veux surtout pas enlever du crédit à Stéphane qui, sincèrement, il a ramené des résultats, ce qui était la priorité de Rennes, pardon. Et qui veut dire résultat, la confiance revient petit à petit. Et on voit les joueurs prennent de plus en plus d'initiatives ou quoi que ce soit. Après, sur la globalité du jeu, Bah, moi, je m'y retrouve pas encore tout à fait. C'est tout ce que je voulais ajouter là.
Ok. Ouais, c'est vrai qu'en début de saison, il avait un peu plus commencé avec une composition à trois défenseurs. Et on a vu notamment ce qui avait beaucoup aidé à libérer Bourigeaud. Et là, il est repassé un peu plus à quatre. Mais c'est vrai que moi, quand je vois qu'il a perdu quand même Enzo Lefebvre, qui était l'un des meilleurs joueurs rennais en début de saison, il perd Matic, qui est transféré à Lyon, pardon. Voilà, il doit composer avec un nouveau milieu. Enfin bon. T'as quelque chose à ajouter sur Rennes, Alexis, ou on peut passer au prono compo?
Passons, passons au prono.
Passons au
Je vous
prono, bah
suis sur ce que
vas-y.
vous avez, sur vos conclusions. Alors, pour les
Bah,
pronos,
vas-y.
si tu me lances. Je vois pas Rennes marquer de but parce que, bon, Lille est à domicile, ils sont pris que 4 buts, on va pas le redire. Je vois une petite victoire de Lille, mais une toute petite, peut-être de 1-0, voilà, quelque chose comme ça. Sur un but de David qui vient de marquer ce soir d'ailleurs contre Sturm Graz.
Ah, nice.
Eh oui, il s'est remis en jambes ces derniers temps, donc ça fait plaisir. Donc voilà, un petit but de David et le tour est joué.
C'est bon pour l'indice UEFA, ça. Baptiste, à toi.
Ouais. Non, ce qui sera quand même intéressant de souligner, c'est ce que va faire Fonseca, parce que là, je vois qu'il a mis, bon, il a fait un tout petit peu de tournée, mais quoique non, même pas. Bon, il a mis juste mis Haraldsson et Bouadi avec André par rapport à l'équipe type ce soir. Donc savoir ce que va mettre en place ce que va mettre en place Fonseca pour contre Rennes. Ce qui risque d'être un petit peu compliqué parce qu'il fait très souvent tourner au moins 3-4 joueurs à chaque fois qu'il joue la Coupe d'Europe. Donc à voir. Tu fais bien de parler de Alexis de Jonathan David qu'on a retrouvé. Je crois que c'est 6 buts lors des 6 derniers matchs quoi. Avec celui de ce soir, ça sera 7. 7 sur 7 quand même. C'est plutôt pas mal. Moi, j'ai un avis un petit peu différent. Moi, je vois des buts. Je vois des buts concernant ce match-là. Un petit 2-1, un petit 2-1, un petit 2-1, un petit 2-1 Lille, un petit 3-2. Voilà, un match avec des buts assez enlevés. Donc non, je suis assez confiant sur le taux de comment on dit, excuse-moi, de spectacularité, on va dire
Ah,
Donc, ouais,
spectacle, ouais, on
spectacle,
va rester
spectacle,
simple.
voilà, le taux spectacle, voilà,
Spectacularité.
exactement. Ouais, j'ai eu du mal, j'ai eu du mal. Donc, non, je suis sur un match assez enlevé, assez intéressant pour nous téléspectateurs.
Ok. Bon, bah, nice. Ouais, moi, je vais vous suivre aussi, hein. Je pense quand même que ça va être. C'est quand même deux équipes qui proposent du jeu qui sont assez ouverts, avec des joueurs aussi qui sont plutôt en forme. Après, bon, attention à Lille, l'enchaînement, et la fatigue des matchs, voir comment ils vont pouvoir gérer après ce déplacement, à Sturm Graz, qui est en Autriche, si je me trompe pas.
C'est ça, ouais.
Ouais, à voir comment ils vont pouvoir gérer ça. Après, ouais, comme on l'a dit, à domicile, très solide. Allez, moi, je vais partir sur une victoire. Et moi, je vais bien partir sur une victoire rennaise. Je sens que Rennes, ils peuvent faire un petit coup. Je vais dire. Et en fait, ouais, je les vois pas perdre deux matchs de suite, donc je vais dire 2-1 pour Rennes. Ouais, je me
Mais
suis.
de Mais de ce ce qui est intéressant sur ces deux matchs-là, c'est que ça reste quand même deux matchs vachement indécis, où sincèrement, enfin la victoire de l'un ou la victoire de l'autre, de l'équipe à domicile ou de l'équipe à l'extérieur, me choquerait pas tant que ça. Et c'est quand même c'est ça qui rend ces deux matchs vraiment très intéressants. Moi, je trouve que quand même, on a deux beaux matchs à regarder ce week-end. Hein.
Ouais, mais complètement. Là, c'est comme tu l'as dit en début d'émission, là, c'est la course à l'Europe. Il reste 9 journées. Il faut pas se louper. Et surtout que Lens et Rennes, ils ont deux gros programmes qui les attendent. Donc, non, complètement. Bien, messieurs, si vous n'avez plus rien à rajouter sur ces deux matchs, on va passer au tour des stades. Et on va commencer par le match du vendredi soir voilà, pour bien commencer ce week-end de Ligue 1. Donc, Nice-Montpellier. Nice-Montpellier, voilà, Nice était imposé 4-1. Non, pardon, Nice avait fait match nul face à Montpellier, donc à l'extérieur. Par contre, ils avaient gagné 4-1 face à Montpellier. En Coupe de France, juste pour rappeler la journée précédente, donc Lille, non, pardon, pas Lille, on a arrêté de parler de Lille. Montpellier avait fait match nul contre Strasbourg 2-2 à domicile, tandis que Nice a perdu 2-1 face à un Toulouse qui est bien en forme, mais on en reparlera un peu plus tard. Au niveau des absents de ces deux équipes, voilà, rien de bien surprenant, même s'il faut quand même noter côté niçois le retour de Morgan Sanson et de Youssouf Ndiachemié, qui sont quand même deux joueurs importants. Et du côté montpelliérain, le retour de Julien et de Omerhagic. Et Sagnon qui sera bien sûr suspendu. Alexis, on va commencer par toi. Est-ce que tu as un commentaire à dire sur ce match? Sinon, quel est ton résultat pour ce match?
Moi, déjà, de la même manière que toi, à propos de Rennes tout à l'heure, je vois pas Nice enchaîner deux défaites, pardon. Je les vois gagner. Je les vois être beaucoup plus entreprenants que Montpellier, qui, je pense, aussi a du mal à proposer leur jeu, qui n'ont pas toutes leurs armes en ce moment, avec Cazri qu'on n'a pas vu depuis longtemps, les blessés malgré les retours, etc. Je vois Nice imposer leur façon d'être et je les vois gagner. Peut-être pas d'une grosse victoire parce qu'on parle quand même de Nice, ils marquent pas beaucoup, mais ouais, 2-1 ou 2-0 pour Nice, je vois.
Ok. Et toi, Baptiste?
Ouais, pareil. Là, je regarde là Nice. Et ils ont gagné un seul match en 2024 en championnat. Hein. Un seul
Ouais.
match. Donc avec la coupe, ça fait avec la coupe, ça fait trois parce qu'on l'a gagné à Bordeaux et à Montpellier. Mais ils ont gagné donc un match en championnat en 2024. Donc là, c'est quand même assez compliqué Nice. Je trouve que les équipes se sont bien adaptées à leur style de jeu. À ce qu'il propose et c'est d'autant plus compliqué pour Nice. Ceci dit, ce match-là, ouais, je les vois un ton au-dessus. Montpellier voyage souvent très très mal, sincèrement. Donc non non une victoire assez tranquille de Nice. Voilà, 1 ou 2-0. C'est que ça va pas marquer non plus 150 buts Nice, mais ça va être solide et ça va en mettre un et ça va pas en encaisser au moins.
Ouais, pareil, je pense pas que Montpellier va être très dangereux face à cette équipe niçoise, hein. Même si voilà Montpellier quand même doucement ils commencent à se mettre de plus en plus en danger puisque là ils sont à la porte de la relégation et ils ont les mêmes nombres de points que Le Havre qui est 16e mais je vois quand même Nice gagner sur un petit score, un petit 1-0, pas plus, et voilà, avec un petit but de Mofi.
Je peux juste
Nickel.
ajouter une dernière petite chose
Allez.
rapidement pour rebondir sur ce que Baptiste disait. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné beaucoup depuis début de l'année, mais en même temps ils jouent que à l'extérieur et c'est une deuxième équipe de Lille en fait. C'est la même chose. Ils sont très très forts à domicile. Ils se prennent peu de buts et à l'extérieur ça voilà ça marche pas. Et vu que là c'est à domicile, je pense qu'ils vont pouvoir en profiter pour se remettre en avant. Parce que voilà, ouais.
Ok.
Voilà, c'est tout.
Nickel.
Merci.
Merci pour l'intervention. Du coup, Lorient contre l'Olympique Lyonnais. Donc Lorient contre l'Olympique Lyonnais, hein, pareil, on rappelle le score du match aller. Il y avait eu 3-3 entre les deux équipes qui s'étaient jouées en octobre. C'est vrai que Lyon était sur une très bonne dynamique, hein, puisque avant leur défaite face à Lens, ils avaient enchaîné quand même 4 victoires. Et voilà, face à des belles équipes, hein, notamment Marseille et Nice dans le lot. Donc Lyon qui fait une remontée incroyable, qui est actuellement 11e. Et à la limite, on parle plus de... Bon, on parle... J'allais m'emballer en me disant on parle d'Europe, mais pas du tout. On parle de moins en moins de relégation. Hein. Je me suis auto-calmé avant que vous me tombiez dessus, parce que je sens que vous alliez me dire des choses. et de l'autre côté, du coup, Lorient, tac, tac, tac. Lorient qui a gagné, comme on l'avait dit, face à Rennes 2-1, avec encore un but de Bamba. Bamba qui ne s'arrête plus, c'est la recrue de ce mercato hivernal. Lorient, pareil, qui fait son petit bout de chemin, qui sort de la zone de relégation, alors que, voilà, en milieu de saison, limite, on parlait d'un départ de Régis Lebris, alors que là, ils ont quand même enchaîné. Sur les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires et une défaite. D'ailleurs contre Nantes, contre les Canaries.
Tu parles de
Baptiste.
ça.
Non, c'est Nantes qui a gagné contre Lorient il y a 2 matchs.
Ben oui, quand même. On est fou. On perd pas. On perd pas. Voilà. Bref.
On perd pas contre Lorient, c'est ça, c'est la limite. Je dirais, si c'est ça votre limite, hein. Baptiste, commentaire sur le match et résultat pour toi.
Ouais. Match très indécis quand même parce que moi je suis pas du tout convaincu par malgré les super résultats et c'est bien l'essentiel de Lyon dans le jeu. Alors des très bons joueurs, des très bons joueurs recrutés quand même. Benrahma qui fait beaucoup de bien, Nouama qui se retrouve un peu plus, Matic qui est bon, qui alterne un peu le bon et le moins bon. Donc je suis pas hyper convaincu par ce qu'il propose. En plus que j'ai entendu ça, d'après ce qu'il disait, t'es pas très optimiste pour la Cazette, pour le retour de la Cazette. Donc non, j'irais plus vers un nul et une victoire de Lorient me choquerait pas en fait, me surprendrait pas plus que ça. Donc ouais, on va quand même rester sur le nul. Mais non. Et une équipe de Lorient moi qui m'intéresse, pareil. Bon, ils sont aussi capables de perdre à domicile contre Nantes, mais globalement ça va beaucoup mieux. Je crois que Lebris a repris la main sur son groupe. C'est pas hyper emballant à regarder, sincèrement, mais c'est très cohérent.
Ok. Et ouais, c'est vrai que j'avais oublié de mentionner que Lacazette était incertain, tout comme Mangala et bien sûr Maitland-Niles qui a pris un carton rouge sera absent. Je te laisse parler, Alexis.
Merci, merci, t'inquiète pas. Je te laisse gérer le podcast
Merci.
et nous indiquer la marche à suivre. Non, mais Lorient-Lyon, je trouve que c'est un super match très intéressant à ce moment de la saison parce que il y a 3-4 mois, c'était les deux relégables. Enfin, non, peut-être pas 3-4 mois, mais oui, en novembre, octobre-novembre, ils étaient très, très mal partis dans cette Ligue 1. Et là, voilà, depuis 2024, les deux équipes se sont relancées. C'est les deux équipes qui font voilà, la meilleure année 2024 pour l'instant. Elles sont toutes les deux à 12 points en tête de la Ligue 1 des 5 dernières journées. Donc très intéressant comme match. Pour suivre ce que Baptiste disait, plus ou moins, je pense aussi que Lorient a petit ascendant par rapport à Lyon. Oui, c'est vrai qu'ils offrent pas un jeu qui est flamboyant. Mais ils ont une rage un peu plus vainqueur, je pense, que Lyon qui fait des matchs avec et des matchs sans quand même depuis quelques temps. Donc voilà, je vois aussi une petite victoire de Lorient 1-0 ou alors un 0-0, mais je tends un peu plus vers la victoire, contrairement à Baptiste.
Ouais, clairement, moi pour vous suivre, il y a quand même, enfin on l'a vu à Lens, il y a un Lyon avec et sans la casette. Devant, c'est vraiment lui qui mène l'équipe et même sur le terrain, il leur apporte une énergie supplémentaire. Même si contre Lens, ils avaient quand même bien commencé avec un poteau, mais bon, après ça n'a pas suivi. En vrai, j'ai envie de dire Lorient parce que t'as l'impression que Bamba, tout ce qu'il fait, il le réussit. Il fait que d'enchaîner les buts, donc je vais quand même partir sur un match nul. On va rester prudent, mais je vois 1-1 entre Lyon et Lorient. Le match du dimanche 13h. Alors, je vous avouerai que récemment, on a été bien gâtés par les matchs de 13h. Voilà, la programmation était plutôt sympa. Il y a 2 semaines, on avait eu Lens Monaco à 13h, qui était un match très ouvert. La semaine dernière, on avait eu Toulouse OGC Nice avec Toulouse qui est proposé du très beau jeu. Là, on a le PSG face au Stade de Reims. Juste pour vous donner le contexte des deux équipes, à part les blessés à long terme, tous seront à peu près présents. Juste Asensio qui est incertain, mais vraisemblablement il sera pas là. On a le retour de Marquinhos et Danilo Pereira. Côté Rémois, on a le retour de Thomas Fouquet après les blessés. Voilà, ces blessés habituels, Buzzi ou Komu et Koné. Au match aller, le PSG s'était imposé assez facilement 3-0 à l'extérieur face à Reims. Donc le PSG qui est sur, si je me trompe pas, 21 matchs sans défaite, ouais, sans défaite, si je me trompe pas. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire, sachant que Reims a perdu son dernier match, tandis que le PSG face à Lille, tandis que le PSG a fait match nul face à Monaco. Baptiste, toi ce match, commentaire, score.
Ouais, on peut appeler ça, sans, c'est pas du tout péjoratif, mais l'Asiatico, hein, parce que je pense que si le match il est à 13h, il y a Kanginli d'un côté, Ito et Nakamura de l'autre, je pense que ça va faire plaisir au continent asiatique. Non, je pense qu'en plus c'est pas, c'est à leur horaire, à un horaire assez décent pour eux, ce sera pas en plein milieu de la nuit, donc je pense que non, c'est un joli clin d'œil qu'a fait la LFP. Non, mais plus globalement, ce qui est un peu l'inconnu de ce match, c'est la composition du PSG qui a un match important trois jours après, qui reçoit Nice en Coupe de France. Donc on connaît Luis Enrique qui est beaucoup de surprises. Donc sincèrement, ouais, la compo elle va être un peu, elle va être, je pense, un peu aléatoire. Va être un peu aléatoire, un peu inconnu, mais Reims est dans une très mauvaise, enfin pas très mauvaise période, mais marque un peu le pas. Je pense que physiquement, leur jeu est très énergivore, ils courent beaucoup, et là j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu le contre-coup. Donc PSG est sur deux nuls d'affilée en championnat, et ça doit rester sérieux. En plus, le bon match à la Sociedad, ouais, je vois Paris, pas extraordinaire, mais Paris qui gagne sur la longueur. Pourquoi pas avec les rentrées, je sais pas, je vois bien Mbappé sur le banc ou Dembélé ou voilà, deux trois rentrées qui font la différence. Mais tu vois, une petite victoire 2-1 un peu à l'arrache, mais méritée tout de même, avec un Reims qui donne ce qu'il peut. Voilà, je vois bien ce style de match-là. Avec un Reims qui peut les déranger, hein, sur le début de match, avec un très gros pressing, tu vois, un très gros pressing qu'ils avaient fait à l'aller. Tu dis que le 3-0, victoire facile, si on se souvient bien, en première mi-temps, c'était incroyable que Reims ne mène pas au score. Donc non, un match plutôt compliqué, mais à la finale que PSG gagne.
Ok. Et ouais, juste pour rappeler, c'est vrai qu'en ce moment, Reims, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, un nul et une victoire face à Le Havre à l'extérieur. Alexis, prono.
Alors, un prono pour PSG Reims. C'est compliqué. Non, je vois aussi Luis Enrique faire un peu tourner l'équipe. Enfin, on l'a vu déjà à Monaco. J'ai pas envie de dire qu'il a fait tourner complètement son équipe, mais il a d'autres priorités en cette fin de saison, je pense. Ça se fait pas de dire ça comme ça, mais voilà, il pense à la Ligue des Champions, à la Coupe de France, plus qu'à la Ligue 1. Où ils ont un peu d'avance, où ils savent qu'il n'y a plus autant de journées. Et du coup, tant qu'ils ne perdent pas, voilà pourquoi s'efforcer à mettre toutes les pièces maîtresses de leur jeu pour marquer plein de buts, pour humilier l'adversaire, etc. Donc, je vois bien sûr, je vois PSG gagnant. Mais ouais, de la même manière que Baptiste, une victoire un peu suffisante où ils vont marquer 2 buts, peut-être pas d'entrée, parce que voilà, Reims, de la même manière que Baptiste disait, Reims va vouloir chipper le ballon, ils vont donner beaucoup d'efforts, mais derrière, voilà, pareil en contre, ils vont mettre 2 buts, ils vont défendre correctement, et voilà, ce sera suffisant.
Ok. Ouais, moi personnellement, je vous suis aussi sur l'idée, hein, Reims n'est pas forcément en forme, hein, même s'ils essayent de produire du jeu, mais tu sens qu'il y a un truc qui est un peu cassé dans cette équipe, ouais, dans le, enfin voilà, dans la maîtrise du match. Et puis, je vois un PSG qui fait tourner. Voilà, Paris doit apprendre à jouer sans Mbappé, donc je vois peut-être un Ramos, un Colomoy titulaire et une victoire du PSG. 3-1. Ouais, 3-1 à
Et
domicile.
puis même, de ce on n'en parle pas beaucoup, les Will Steel, entre les déclats de, je crois que c'était fin 2023, je crois que c'est novembre ou décembre 2023, enfin c'était pas les déclats, mais c'était les rumeurs comme quoi il négociait avec un club de
Ouais,
Championship. Là, je crois qu'il a encore fait une déclaration en disant que voilà, il a envie de rentrer à la maison. Donc Dixit, sa maison, c'est en Angleterre. Je crois qu'il a été il a été vach il a été vachement là-bas étant jeune. Sincèrement, faudrait voir comment dans quel état d'esprit est Reims et l'effectif de Reims et le club Reims. Et sincèrement, s'ils font pas une fin de saison en roue libre en fait, ou sincèrement où le coach est pas du tout concerné. Là, on regarde en fonction des résultats, en mettant en corrélation cette info-là, je me demande s'il n'y a pas un petit problème là-dedans. Voilà, à quel point le sort et l'avenir de Will Steel ne joue pas sur les résultats et les performances rémoises.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'on en avait parlé il y a quelques podcasts, hein, quand on faisait un match sur Reims, dans le sens où entre ses déclats, voilà, et sa copine à Londres, et puis il y a pas longtemps, ouais, il a clairement dit que lui, il voulait rentrer à la maison, et il voulait même pas forcément pour aller en première ligue, tu vois, même en championship, tant que c'est une équipe qui avait un gros projet. Ça fait quand même bizarre d'un coach qui, pendant un moment, se battait pour des places européennes avec son club. Et là, te dit en mi-saison, ouais, bah moi j'aimerais bien retourner en Angleterre. Moi, je pense que c'est quand même lié. Après, bon, on n'est pas dans la tête des gens, mais je pense que
Et du
c'est un
coup,
peu lié.
est-ce qu'on verrait pas du coup les joueurs de Reims tous se battre pour bien se montrer, pour choisir leur club l'année prochaine peut-être, s'ils voient leur coach partir en sucette, est-ce qu'ils je pense qu'il y a deux facettes, soit voilà, ils perdent toute motivation, et ils pensent qu'au club qu'ils pourront peut-être rejoindre, soit justement ils vont avoir la motivation pour jouer bien tous ensemble pour pouvoir continuer leur carrière ailleurs. Donc je parle des Thomas,
Non,
des Ito,
mais
des
t'as raison.
Varane, ceux qui ont
Non.
une telle
Et surtout
prospective.
contre le PSG. Surtout contre le PSG, je parlais même plus à long terme en disant qu'ils ont, bon, contre le PSG, je me doute pas que la motivation est grande, jouer au parc. Il y a aucun souci sur ça, mais je parlais un petit peu plus à long terme et globalement. Il y a un match, on est sûr d'être sauvé, on est pratiquement sûr de pas jouer l'Europe l'année prochaine. Enfin, pas sûr, mais un petit peu loin quand même. Quoi qu'ils sont pas si loin, soit 5 points, mais ouais, il y a beaucoup d'équipes à côté, Marseille, Rennes. Ce que je veux dire, c'est voilà, finir un petit peu en roue libre sans avoir peur de descendre, mais voilà, dans l'anonymat complet quoi, alors que c'était une équipe qui était plutôt agréable à voir pendant les premières les comment les la première partie du championnat.
On va enchaîner sur l'autre match, du coup Monaco-Strasbourg. Monaco qui s'était imposé à domicile 3-0 face à Strasbourg au match aller. Monaco qui a fait match nul à domicile face au PSG la semaine dernière. Face Strasbourg qui lui a fait match nul aussi face à Montpellier. Monaco qui est plutôt sur une bonne dynamique, hein, même si voilà, il y a cette petite défaite face à Toulouse 2-1 il y a 2 journées. Strasbourg qui a réussi avec ce match nul à mettre fin à une série de 4 défaites, mais qui doit quand même faire attention parce qu'ils sont qu'à 2 points du barragiste, donc du premier relégable. Vous, Monaco-Strasbourg, un petit score pour ce match. Alexis, allez.
Alors Strasbourg, justement, je ne sais pas ce qu'ils font ces derniers temps. Là, contre Montpellier, ils devaient gagner le match, sauf qu'ils marquent le but de la victoire juste à la fin, et ils s'en prennent quand même un derrière. Donc c'est un peu comme Lille, je pense qu'ils sont très très jeunes et pas assez sérieux, pas assez impliqués tous ensemble de la même manière que des équipes très soudées, voilà, comme Lens, Brest, bref, on va pas redire tout. Et contre Monaco, je pense qu'on va suivre plus ou moins la même chose, hein, où ils vont vouloir se montrer, ils vont vouloir faire quelque chose, mais Monaco quand même un peu supérieur. Et oui, choper la victoire, je pense, Monaco, peut-être un 2-1, un 2-1 pour Monaco, oui.
Surtout que en plus, pour rajouter ça, les supporters strasbourgeois, bah, ils commencent à râler un peu par rapport aux propriétaires qu'ils n'ont jamais pu rencontrer pour l'instant. Ils aiment pas un peu, voilà, cette, on va dire, politique de fonds d'investissement qui possède plusieurs clubs. Ils ont l'impression un peu d'être mis de côté. Donc, à voir si ça aussi, ça peut pas peser. Sur l'équipe de Strasbourg, et j'ai oublié de noter aussi que retour de Zakaria pour ce match. Baptiste, je te lance, Monaco-Strasbourg.
Ouais, tu fais bien de parler de Strasbourg, parce que moi je sais pas du tout où ils vont, je ne crois pas du tout en ces équipes. On avait parlé dans un précédent podcast, pardon, ces équipes qui sont la filiale d'un grand club anglais ou d'un grand club tout court. Donc moi j'y crois pas du tout à long terme, mais là en court terme, moi j'ai une théorie sur les équipes qui font un très bon match contre le PSG, c'est que le match d'après, il est très compliqué. Plus des Strasbourgeois qui bon bah jouent contre une grosse équipe donc vont se donner à 100%. Donc je vois un match assez compliqué pour Monaco bizarrement. Je vois bien un Monaco accroché, un petit nul avec des buts parce que deux équipes qui défendent pas extraordinairement bien, donc un petit un partout, un petit 2-2, voilà.
Donc oui, là on est dans les matchs du multiplex, hein. Moi je vais plutôt partir sur Monaco 2-1 quand même, puisqu'ils ont quand même les armes offensives pour. Et ouais, ce Strasbourg, je trouve qu'il est pas forcément très sexy, il va se maintenir là, mais voilà, c'est pas ouf. Donc ouais, je vois Monaco gagner 2-1 moi perso. Toulouse-Le Havre. Toulouse-Le Havre, voilà, petit rappel. Toulouse-Le Havre. Le Havre qui s'était imposé 2-1 face à Toulouse au match aller. Pour vous rappeler un peu ce que les deux équipes avaient fait aux journées précédentes. Donc Toulouse s'était imposé face à Nice, hein, sur un super match, avec encore un but de Monsieur Dalinga, hein, qui se réveille en cette fin de saison. Et de l'autre côté, Le Havre qui a perdu contre Brest. Hein, je vais dire, qui ne perd pas contre Brest cette année, mais c'est vrai que Le Havre, bah, ils sont quand même dans une mauvaise dynamique avec 4 matchs et 4 défaites, quand Toulouse est sur une dynamique hyper positive avec 3 victoires de suite et pas contre des petites équipes non plus. Donc, Alexis, qu'est-ce que tu vois toi comme match entre Toulouse et Le Havre et comme score?
Moi, je vois tout, comme depuis 2 3 semaines, je vois Toulouse relâchée, où ils ont peur de rien, où ils sortent des gros matchs contre Nice, Monaco, c'est quand même pas n'importe qui. Et je les vois, pour une fois, prendre le dossard de celui qui doit mener le jeu, donc celui qui, sur le papier ou alors pronostiquement, doit être meilleur que Le Havre. Donc voilà, donc mener la danse. Mais je les vois quand même prendre un petit coup d'arrêt. Je les vois pas perdre, mais je les vois être rejoints en fin de match par un Le Havre qui se bat pour le maintien un peu plus que Toulouse et qui a besoin de prendre des points là où ils peuvent et qui vont y aller corps et âme, je pense. Donc voilà, je vois un petit 1-1 comme on aime bien les matchs nuls en Ligue 1.
Et toi, Baptiste, Toulouse-Le Havre?
Ouais, pareil, je joue un petit match nul. Le Havre vraiment dans le dur ces derniers temps là, et vraiment ils ont beaucoup de mal à faire du jeu, même à se créer des occasions, donc assez compliqué. Et ouais, Toulouse qui est plutôt en forme, le match en Coupe d'Europe très bon. Ils arrivent à 2 fois, je crois que 2 fois ils sont menés au score, mais je sais pas si contre Nice ils sont menés au score. Je me
Toulouse?
souviens plus.
Oui,
Ouais,
contre Nice, oui.
je me Contre Nice, ils sont menés au score. Contre Lille, ils sont menés au score. Ils reviennent. Après, je trouve qu'à domicile, ils sont quand même beaucoup plus forts qu'à l'extérieur. Toulouse, bien emmenés par le stadium. Donc non, sincèrement, je vois bien un petit nul. Je vois bien Le Havre se rebeller quand même un petit peu, mais pas arriver. Il manque un peu de talent devant quand même au Havre. Il manque un mec au milieu, un peu qui joue dans les 30, 30, 40 derniers mètres, qui fasse un petit peu plus de différence que ça. Donc ouais, un nul et un match assez accroché, assez dur. Pas énormément d'occasions, non, un match bien, bien Ligue 1, bien, bien, bien compliqué.
Moi, je vais quand même partir sur Toulouse parce que c'est quand même une équipe. Alors, certes, qui a été en réaction ces derniers matchs, mais par exemple contre Lille, on a vu que le coach, il avait fait des changements à la mi-temps, donc il avait fait rentrer les titulaires, Siro, Dalinga, et d'un coup, c'était plus la même équipe. Pareil lors de la dernière match face à Nice. Certes, ils sont à réaction et le but de Dalinga part quand même d'une erreur. Je me souviens plus qui, c'est l'arrière gauche qui rentre à la place de Bard, qui fait une erreur et voilà, ça relance Toulouse. Mais je trouve que c'est comme, ils sont sur une bonne dynamique et Le Havre, à contrario, a beaucoup de mal. Donc je vais quand même partir sur une victoire de Toulouse 2-0. Le petit match de, oui, le dernier match du multiplex. Alors c'est pas le plus sexy, Metz-Clermont, mais c'est un match quand même important puisque c'est deux équipes qui se battent pour le maintien, donc qui sont 17e et 18e, sachant que Metz a gagné le match dernier face à Nantes 2-0. De l'autre côté, Clermont a perdu violemment, on peut le dire, face à Marseille, surtout à domicile, 5-1. Au match aller, les deux équipes, donc Clermont s'était incliné face à Metz sur un petit score de 1-0. Niveau absence au niveau des deux équipes, rien de bien choquant, enfin rien de voilà, on a un Cofriès qui revient, Gonalons qui est peut-être incertain, tout comme Kay. Alexis, ce match, Metz-Clermont.
Alors, je vais déjà te contredire un petit peu. Ces deux équipes ne jouaient plus le maintien, je pense. Mais les deux équipes, depuis le 19 janvier, ont toutes les deux qu'une seule victoire en Ligue 1. Les deux contre Nantes. Du coup, ça les a relancés. Et maintenant, oui, maintenant ils jouent le maintien. Maintenant, c'est un match super important parce que quoi qu'il arrive, ça peut faire les affaires soit de tout le monde. Enfin, tous les autres, soit de un des deux. Donc, c'est assez compliqué à pronostiquer parce que ces deux équipes qui sont, c'est pas les
C'est
équipes
pas
qui proposent le
facile.
plus beau jeu. Non, c'est pas facile. En même temps, elles se laissent pas aller non plus. Mais je vois Metz prendre l'avantage parce que, oui, il reste sur une belle victoire contre Nantes, un beau match contre Lyon. Et un nul contre Marseille juste avant. Donc, ils sont sur une. Après, bon, j'ai sauté un match, mais c'est pour l'argumentaire. Voilà, ils restent sur une dynamique où ouais, ils jouent bien. Et je pense qu'ils vont enfin pouvoir enchaîner de victoires dans la saison. Et voilà, je les vois gagner contre Clermont, ce qui poussera Clermont davantage vers la fin de leur saison. Et qui relancera tout à fait la course au maintien avec les quatre équipes devant.
Ok. Et toi, Baptiste?
Ouais, bah là je vais suivre Alexis, pareil. Alors sincèrement dans le jeu, enfin te dire quelle équipe fait meilleure impression, je sais pas du tout. Donc on va aller sur la dynamique qui est plutôt pour Metz vu la victoire à Nantes. Après la Clermont, ils viennent de changer de coach, enfin changer de coach, non, c'est une doublette maintenant, donc à voir si ça a un effet immédiat, ce dont j'ai des doutes, mais ouais, j'irais plus sur Metz, mais s'il y a nul, je suis pas non plus surpris. On va dire à Metz pour la stabilité, pour la dynamique, la dynamique récente.
Ok, nickel. Ouais, moi je vais partir sur un. Pas facile du tout, mais ouais, match nul. Je pense pas que ce sera un match extraordinaire. J'allais dire 1-1. Ouais, un petit 1-1 entre les deux équipes. Et enfin, pour conclure, le dernier match de ce week-end, hein, le match en prime time du samedi soir, Marseille contre Nantes. Donc, Marseille contre Nantes, pour rappel, c'était 1-1 au match aller, hein, donc le match était joué à Nantes. Comme je l'ai dit, hein, lors de la dernière journée, Marseille s'est imposé très largement 5-1 face à Clermont, tandis que Nantes a perdu face à Metz 0-2. Sans doute pour redonner un peu de suspense à cette Ligue 1. Merci à l'équipe nantaise. Bah clairement,
ça se fait pas.
Non, mais c'est gentil de penser au suspense du championnat. Clairement, cette équipe marseillaise, joue très bien depuis Gasset, à la grande surprise, hein, elle propose du jeu, elle met beaucoup de buts. Nantes est un peu plus en difficulté, hein, Marseille donc est actuellement 7e et Nantes qui est 14e, qui est pareil à un point. Du barragiste. On va commencer par toi, Alexis. Marseille-Nantes, ton pronom, pardon.
Moi, je trouve ça incroyable, justement, Gasset, parce que il n'a pas changé grand-chose, techniquement. Mais ça marche beaucoup mieux, et puis il marque plein de buts. Donc voilà, c'est un peu dommage que ce soit arrivé maintenant, enfin, il y a 2 semaines, et pas après ce match contre Nantes, parce qu'on a besoin de points. Mais je vais essayer de parler en tant que non-supporter, en tant que commentateur objectif. Mais en général, Nantes aime bien jouer à Marseille aussi. Je ne vais pas dire que ça arrive à chaque fois, mais ouais, il y a souvent des matchs où ils sont un peu tiraillés, où ils peuvent gagner, où ils peuvent faire match nul. Il y a eu quelques matchs nuls aussi dans le passé, au Vélodrome. Donc, je vois quand même forcément, bien sûr, Marseille gérer le match, prendre complètement possession du ballon, et Nantes qui, comme depuis quelque temps, ne sait pas quoi faire des quelques occasions qu'ils ont. Je vois quand même peut-être une défense nantaise qui arrive à faire face à l'ogre offensif marseillais ces derniers temps, où ils vont forcément jouer à 5 derrière comme ils ont fait contre Paris. Peut-être qu'ils seront un peu plus chanceux contre Paris il y a quelques semaines, justement, et qu'ils vont réussir à tenir le 0-0 jusqu'à la fin. Mais voilà, j'attends de voir. En tout cas, pour une première de Nantes en prime time cette saison, ça me fait plaisir.
Ok. Et vas-y, pour conclure, Baptiste.
Ouais, moi aussi, je vois un peu plus l'OM. D'ailleurs, en venant sur Gasset, là où il a été, c'était quand même, tout le monde était vachement déçu de sa nomination. Moi, j'étais plutôt, satisfait, je sais pas, mais plutôt emballé. Parce que je pense qu'il fallait un mec qui soit assez bon dans les têtes psychologiquement. Je dis pas que tactiquement il est nul Gasset, parce qu'il a déjà prouvé par le passé que il était aussi intéressant dans cet aspect-là. Mais on sait qu'il est très proche des joueurs, très vachement dans la psychologie. Il a été longtemps adjoint, donc je trouvais que c'était une très bonne idée si t'avais pas ton coach pour l'année prochaine, en fait, si tu trouvais pas un coach à long terme. Donc super idée d'avoir pris Gasset, selon moi. Et ouais, je vois l'OM. Moi, je suis un petit peu plus réservé sur le jeu et tout ça, parce que bon, Shakhtar Donetsk, Montpellier et Clermont, je trouve que c'est pas non plus des tests monstrueux pour voir. Et malheureusement pour Nantes, équipe qui me déçoit beaucoup, parce que je vois quand même un potentiel un peu plus important que ce qu'ils montrent. Je trouve que ce sera pas non plus hyper révélateur. Donc je vois une victoire tranquille de l'OM, voilà, je sais pas, 3-1 ou quelque chose comme ça, voilà, 2-0, 3-1, en espérant voir des buts. Et ouais, si je dois dire un mot sur Nantes, ouais, un peu assez déçu quand même. Globalement, je trouve qu'ils ont quand même des joueurs assez intéressants. Mohamed, Simon devant, ça prend pas du tout. Défensivement, pareil, ils ont 2-3 joueurs qui peuvent être intéressants, mais non, je suis quand même globalement très très déçu de ce que propose Gourvennec depuis qu'il est intronisé.
Et pour te répondre, Alexis, la dernière fois que Nantes a battu Marseille, c'était en 2018. 5 décembre, 3-2.
On a fait des nuls, et on a failli les gagner pour toi, mais on a fait des nuls.
Il y a eu quelques nuls. Mais ouais, non, moi je vous suis, hein, d'ailleurs, j'ai été le premier à être surpris, hein, de Gasset. Pas dans le sens où voilà, c'est quelqu'un qui est nul, mais tu sens que tu sais pas vraiment vers où va Marseille. Il change d'entraîneur souvent, il n'y a pas de stabilité. Donc c'était dommage. Enfin, dommage. Après, pour l'instant, ça fonctionne, donc tant mieux pour eux. Mais Marseille est, ouais, dans une bonne dynamique. Donc pareil, je vois Marseille gagner 3-1. 3-1, surtout que c'est à domicile. Donc ouais, assez facilement. Eh bien, messieurs, je vous remercie de m'avoir accompagné pour ce podcast. J'espère que voilà, on va quand même être gâtés ce week-end avec beaucoup de foot. Tu voulais dire quelque chose, Baptiste, avant de nous quitter, un petit mot?
Bah non, mais vous dire au revoir, que ça a été un plaisir d'être avec vous. Voilà, je pense qu'on va se régaler sur les deux matchs, sur lesquels on a le plus commenté, et peut-être un petit peu moins sur d'autres. Mais non, non, je vois une belle journée en perspective.
Nice. Eh bien, merci, messieurs, merci de m'avoir accompagné pour ce podcast. Merci à vous, les auditeurs, de nous écouter. N'hésitez pas, voilà, à commenter cet épisode, à revenir vers nous, comme vous le faites. Encore une fois, on est disponible sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Music. On est aussi disponible sur tous les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous, comme vous le faites aussi tous les week-ends, donc X, Fred, etc. On vous souhaite un bon week-end de football, bien sûr, dans le meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie.
Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.